livre, des cahiers. Qu'est-ce qu'un métier à tisser? Déjà nos gones se sont taillées dans le bouquin de moissonnier. 70 heures par semaine, la Croix-Rousse tombe en paupière. Le piston claque à la migraine, brouillant les cris des révolutionnaires.
Bonjour. Le 25 février 2002, nous recevions en direct à Radio Canut, pour parler des brigadistes de la région lyonnaise, l'historien lyonnais Maurice Moissonnier, disparu depuis le 23 juin 2009. Nous gardons de lui le souvenir d'un militant infatigable de la cause du mouvement ouvrier. Professeur d'histoire à Lyon, il consacra une grande partie de son temps et de son énergie aux luttes sociales et à un travail d'historien sur celles-ci, entre autres à travers la publication d'ouvrages et d'articles multiples, en particulier le grand classique « Les Canuts » et une participation active au Métron. Il fut aussi, en son temps, président de « Ras le front à Lyon ». À Radio Canut, dans le cadre de l'émission Bistanclac qu'il avait choisie pour sa liberté de parole et son engagement sans équivoque, de 1994 à 2004, nous l'avons reçu une trentaine de fois pour évoquer une heure durant à chaque fois un sujet historique. 80 ans après les événements de la guerre d'Espagne, dans le cadre d'une série d'émissions vendémiaires, consacré à l'évocation de cet événement majeur, nous vous proposons une rediffusion de cette émission où il évoquait les brigades internationales à travers la participation de militants de la région lyonnaise. Bonne écoute.
On avait une section de secours rouge, on était antifasciste, de père en fils à la maison, en Suisse, antifasciste, on n'était pas communiste. Puis on a dit Front populaire en France, Front populaire en Espagne. Voilà le monde nouveau que nous rêvons, ça vient. C'est là. Voilà. Alors, il fallait soutenir. Mes parents, ma mère a pleuré pendant 2 ans jusqu'à ce que je suis revenu. Pareil que la tout le temps. Mais tout le monde était avec nous.
Vous avez quel âge quand vous êtes engagé dans les brigades?
2300.
Vous habitez où en Suisse?
À Porquetorf. Dans l'Emmental, c'est au centre de. Près de Berne, pays de fromage. Mais j'étais antifasciste. Puis quand j'ai lu en octobre, on a lu, 36, que des brigades internationaux ont arrêté les franquistes à la cité universitaire, j'ai dit, j'y vais aussi. Quelqu'un m'a indiqué une adresse à Lyon Villeurbanne, c'est le quartier rouge Villeurbanne. On a pointé dans un bistrot, et les copains faisaient comme un signe comme ça, ou un signe comme ça. Allez, entre camarades. Ils nous ont logé une nuit, nourri, tout, monté le parc, le fameux parc à Lyon, là, parc d'or.
La tête d'or.
Voilà, oh là là, oui. Après, allez, départ avec le train jusqu'à Perpignan. Perpignan, il y avait d'autres qui nous guidaient jusqu'à Albacete. On avait qu'à suivre le guide. Fantastique, les Français, là, ils avaient organisé ça comme il faut, là. Bon, plus de soucis. Mais alors, après... Il y avait du joli et du moins joli. La plus belle, c'est la camaraderie. Les étrangers, je sais Julien Appio, je n'oublie jamais. Et d'autres, on était frères. On ne les a jamais connus, mais on était internationaux, idées. Internationalistes. Les gens étaient avec nous. Quand on arrivait à un endroit comme ça, les gens nous embrassaient. Ils nous prenaient comme des frères. Mais ils ne pouvaient plus rien nous offrir, plus rien à manger non plus dans les villages. Si les syndicats français n'avaient pas existé, Parti communiste français, on serait crevé de faim. J'ai envoyé ça. La France, pour moi, c'est ma deuxième patrie. Pas la France de Pétain.
Paso de l'Ebro, après que l'on ait entendu Arthur Fridley. Arthur Fridley, c'est un des brigadistes qui participait aux rencontres en Espagne de 1996 pour honorer les 60 ans des brigades internationales. Et le sujet de notre émission Bistantlac de ce soir, avec Maurice Moissonnier, présent avec nous, je remercie de sa participation, ce sera les brigades, les volontaires lyonnais et villeurbanais dans les brigades internationales. Donc je pense que Maurice évoquera quelques personnalités, oui, et puis peut-être sûr. Aussi une vision globale, politique, comme toujours, de cet engagement.
Bien sûr. Oui, alors auparavant, je pense que, c'est vrai, le temps passe, et il faudrait rappeler très rapidement les conditions dans lesquelles la guerre civile d'Espagne éclate. Parce que c'est important. C'est vrai que ça arrive après des expériences très très difficiles. L'Espagne a connu la dictature déjà de Primo de Rivera, le général Primo de Rivera, et la République émergera après des élections municipales d'ailleurs du 12 avril 1931 et qui font faire naître un formidable espoir. Bon. Si on veut résumer très rapidement l'histoire de cette république, c'est qu'il y a le premier biennaux réformateur, 1931-33, où des une offre scolaire importante est réalisée, le clergé est mis au pas, c'est-à-dire que il a moins de puissance sur le plan politique auprès des partis et des dirigeants. Et il y a la mise à la retraite des officiers les plus réactionnaires, la garde civile, qui était l'instrument véritablement de ce pouvoir autoritaire, n'est malheureusement pas détruite, mais on va lui opposer une garde d'assaut qui sera choisie par le gouvernement républicain, qui jouera un certain rôle d'ailleurs pour s'opposer aux limites, enfin aux actions de la garde civile, cette garde d'assaut. Bon, c'est la reconnaissance aussi jusqu'à un certain point des autonomies régionales, une réforme agraire aussi très importante. Bref, ça démarre bien. Seulement, ça tourne à partir de 1934-36, avec évidemment d'une part la crise économique, et à ce moment-là, trois grands problèmes sortent, le problème politique bien sûr, avec l'espoir de la droite de reprendre les concessions qu'elle a été obligée de faire, et puis aussi une vive agitation sociale, avec un soulèvement en Catalogne et surtout en Asturie, des mineurs d'Asturie sévèrement réprimés. Hein, et puis aussi, dans ces conditions-là, face à cette violence, que les élections de 1936 vont arriver. Et cette fois, un grand effort est fait dans cette Espagne très très divisée encore, par son passé, par ses structures, par tout un héritage d'histoire. Il va y avoir, pour la première fois, véritablement, une union, à tel point que, par exemple, le bloc de la gauche, le bloc révolutionnaire, va l'emporter avec tout juste 50% des voix. Mais à ce moment-là, va avoir lieu le fameux, l'insurrection militaire préparée, autour de particulièrement les généraux Franco, Godet. Hein, c'est la, on y retrouve, si on peut dire, la tradition des pronunciamento. Et effectivement, à ce moment-là, une guerre locale d'ailleurs éclate au départ. Dans les premiers temps, il n'est pas clair que les militaires vont gagner. Godet échoue, Franco a quand même pas mal de difficultés, mais ce qui va être décisif pour la suite, c'est l'intervention sur le plan international, d'une part de l'Italie, alors une grande quantité d'hommes, d'avions, mais enfin de moyens, et surtout ensuite l'intervention hitlérienne, qui est à peu près contemporaine d'ailleurs de l'effort italien, et alors là avec l'aviation, et avec une aviation qui est vraiment la guerre d'Espagne sera le terrain de mise au point et d'expérimentation de la guerre de 1939, 40, 40 jusqu'à 45. Bon. Alors, bien sûr, il y a une condition qui, à Lyon, fait que la guerre d'Espagne, ça touche au cœur des régions, ça touche au cœur d'une partie, je veux dire, du Lyonnais, de Lyon. C'est, d'une part, bien sûr, Villeurbanne, c'est aussi Vénissieux, et puis c'est aussi toute la partie est, ça va jusqu'à la Guillotière, hein, de la ville. Bah, il suffit de regarder les élections de 1936 pour voir que ce sont les endroits où justement le vote a été le plus avancé, c'est sûr. Bon, ça va jusqu'à Gerland, bien sûr, ça englobe donc Vénissieux et ça englobe surtout Villeurbanne, où il y a dans ces deux dernières villes des municipalités communistes. C'est la première fois ce genre
une forte communauté d'origine espagnole.
Et alors, ce que j'allais dire, et alors où il y a beaucoup d'immigrés, immigrés à cette époque-là, en effet, espagnols, italiens, antifascistes italiens qui sont venus beaucoup. Et c'est vrai qu'on va voir autour de ça, n'est-ce pas, une action qui englobera véritablement la cette population, et je dirais qui l'homogénéisera. Parce que je pense qu'il y avait là une espèce de communion de pensée, hein, et d'inquiétude, et au jour le jour, qui peut expliquer aussi, qui peut s'expliquer, justement, au niveau de la vie quotidienne. Je crois que c'est très important. Bon, si on prend, par exemple, le livre de Lise Ricol, qui a été effectivement, vous connaissez sans doute tous son histoire, c'est la femme qui a été cette jeune fille qui habitait d'ailleurs à cette époque-là Vénissieux, et qui était la femme d'Arthur London, qui a vécu la tragédie justement de la démocratie populaire tchécoslovaque, mais qui était une fille de mineur espagnol émigré en France, et qui a travaillé à Saint-Étienne et qui s'installe, par exemple, le 47 rue Jules Ferry en 1931 à Vénissieux. Elle deviendra une grande militante. Et elle est, dès le début, happée par la lutte qui va se développer à l'occasion de la guerre d'Espagne. Des gens aussi se manifestent. Je pense en particulier à Jean Chintron, qui est aussi qui fait partie alors de la partie sud-est de Lyon, hein, mais qui va faire ses premiers pas. Ce sera Bartel, l'envoyé du Parti communiste en Algérie, pour algérianiser le Parti communiste qui avait des cadres presque essentiellement de métropole encore à l'époque, n'est-ce pas, et qui amènera aussi des premières brigade internationale composée d'Algériens, c'est-à-dire c'était très important dans la mesure où les troupes mortes étaient utilisées par Franco, d'opposer d'autres. C'était, à mon avis, un grand acte international. Bon, donc voilà l'atmosphère tout de suite qui apparaît et c'est important. Alors, je voudrais seulement dire deux ou trois choses. Il y a d'abord ce que j'appelle les tout premiers, parce que les brigades internationales, elles datent d'octobre 1936. Bon, or, c'est quand même en juillet, ça va démarrer beaucoup plus tôt, en Espagne, la guerre va démarrer donc très tôt, puisque c'est pratiquement en juillet, n'est-ce pas, que 1936 que ça va démarrer. Bon, alors. Dès le début, le Parti communiste espagnol aura l'idée des brigades internationales. Mais le gouvernement espagnol, du moment, n'est pas encore d'accord. Le Parti communiste espagnol fait pression pour un accueil de l'aide étrangère et des organisations militaires correspondantes. Alors à ce moment-là, l'URSS a marché dans les premières réactions du gouvernement du mois de juin, le gouvernement donc de Front Populaire, qui sous l'impulsion de Blum, Blum au départ il souhaite intervenir, c'est indiscutable. Il y a aussi du côté des radicaux, quelques radicaux qui sont tout à fait d'accord pour intervenir, en particulier, n'est-ce pas, il était d'abord grenoblois et puis ensuite il est venu, bon, j'ai un trou là, mais qui va être pour ça. Mais la majorité quand même va freiner avec le poids de l'Angleterre, qui
très
paralyse
vite au niveau international.
Parce que bon, la volonté d'intervenir, de fournir tout au moins des armements, d'ouvrir les frontières, d'apporter un appui qui répondait à l'appui massif que les Italiens ont apporté dans les premières semaines et apporté ensuite par les Allemands, qui vont faire de l'Espagne leur territoire d'expérimentation pour la guerre. Il y a donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, une période d'hésitation. Ce n'est que le 22 octobre 1936 que le gouvernement espagnol va accepter les brigades internationales. Or, ça a commencé plus tôt. Alors, ce que je voudrais rappeler, justement, s'agissant de Lyon, c'est cette mobilisation très rapide qui a eu lieu à Villeurbanne et à Vénissieux. Et deux hommes sont partis très tôt. Et je crois que les premiers qu'on peut célébrer, si on veut, là, c'est parler d'ailleurs de Marius Brunan et de Aimé Turel, deux personnages intéressants. Marius Brunan était comptable, mais il travaillait surtout à La Voix du Peuple, l'hebdomadaire communiste de l'époque, et Aimé Turel, c'était un décolleteur de chez Berliet. Et l'un et l'autre avaient participé à la préparation des Jeux Olympiques de Catalogne, qui répondaient, parce que c'était le moment où il y avait les Jeux Olympiques, les jeunes actuellement, ou d'autres, beaucoup de gens l'ont peut-être oublié, mais il y avait les Jeux Olympiques à Berlin, n'est-ce pas, qui se déroulaient à ce moment-là, au moment où ça éclate, et la réplique démocratique, ça avait été justement de préparer des Jeux rivaux, des Jeux en Espagne. Et alors là, déjà un certain nombre de jeunes vénitiens y étaient déjà allés. Il y en a quelques-uns qui sont restés. Mais les deux qui sont partis, là, qui ont joué un rôle important, c'est Marius Brunan et Aimé Turel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ils ont première descente là-bas, c'est une décision tout à fait intéressante, parce que ils sont allés demander au Parti communiste s'ils pouvaient partir. Ils étaient tous les deux communistes. Et Heroldi, qui avait pris la succession de Valdecrochet, qui avait Valdecrochet était parti il n'y avait pas très longtemps. Valdecrochet a été, entre 1933 et 1934, le secrétaire fédéral du Parti communiste de la région lyonnaise, hein, qui dépassait le département du Rhône. Eh bien, Heroldi, qui rentrait d'ailleurs aussi de l'école de Moscou à cette époque-là, les secrétaires fédéraux passaient quelques mois à l'école de Moscou, Heroldi a donné le feu vert pour permettre à ces deux communistes de partir. Alors ils arrivent à Figueras et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Le PUM, le parti d'unification marxiste, n'est-ce pas, qui met la main dessus et qui les recrute et qui les amène faire des exercices militaires avec un manche à balai sur l'épaule à l'hôtel Falcon. Alors, ils grognent, et le 10 août, enfin, c'est le départ. Ça va pas durer longtemps. Ils partent avec le brassard rouge du PUM. C'est une des formations qui s'oppose, n'est-ce pas, à côté des armées régulières dont il s'agit d'abord de voir quelle attitude exacte ils vont prendre. Et alors, ils vont se déplacer, mais à l'arrivée à Caspé, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Ils rencontrent la célèbre colonne d'Uriti. C'est la colonne anarchiste, la colonne libertaire. Et collaborant avec cette colonne d'Uruti, il y a le groupe Berthomieu. Le groupe Berthomieu, c'est un capitaine d'artillerie qui s'est installé en Espagne et qui est un homme de gauche et qui a constitué un commando semi-indépendant. Alors, ils vont entrer dans ce commando, hein. Mais le 16 octobre, le groupe Berthomieu est encerclé, Berthomieu est tué. Ils réussissent à s'en tirer, et à ce moment-là, alors, ils rejoignent le 16 octobre, vraiment, la colonne et l'état-major de la colonne d'Uruti. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, d'Uruti, qui va malheureusement être tué dans des conditions curieuses, hein, on ne sait pas exactement si... Le coup de feu est parti de derrière ou de devant. Hein. Enfin, bon, ça reste un énigme. Mais il a pour femme Émilienne Morin, qui est une Lyonnaise. Et nos deux Lyonnais vont être accueillis d'une façon absolument extraordinaire. Et ils vont effectivement jouer un rôle assez important dans la colonne de Ruti, en disant, bon, ben, nous, on est communistes, mais de Ruti, et à ceci de particulier, c'est qu'il est très francophile. Hein. Et il les accueille très 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 facilement, très joyeusement. Alors petite chose assez marrante, c'est que après Marius Brunan, que j'ai bien connu, qui était un type extraordinaire, délicieux et toujours plein d'humour, eh bien trouve le moyen quand il est venu en permission d'aller apporter la contradiction à Sébastien Faure, qui tenait un meeting à Lyon. Hein, Sébastien Faure, le vieux maître stéphanois de l'anarchisme, et il se présente en libertaire de retour et il explique justement comment lui communiste, il a travaillé avec de Ruti et il a un certain succès dans ces choses-là. Mais c'est assez intéressant parce que ça traduit l'atmosphère. Alors, je dois dire tout de suite une chose, c'est que Turel va y rester longtemps aussi. Et Turel, par la suite, il rentrera, il aura une activité extrêmement importante à la veille de la guerre. Il sera arrêté et il s'évadera et il finira d'ailleurs mystérieusement. Turel, c'est ce communiste qui a ensuite milité. Il avait été mis en prison, il s'est évadé, il est rentré de nouveau dans la résistance. Et il a, j'avais apporté des photos, je me suis aperçu que je voulais te les montrer, et je les ai laissées sur mon bureau, parce que j'ai beaucoup de photos de cette... tant pis. En tout cas, il est parti ensuite dans le secteur de Limoges. et où il a retrouvé sa femme qui avait été arrêtée, parce que lui, il avait été arrêté et sa femme avait été arrêtée. Mais sa femme a été relâchée parce qu'il n'y avait pas de preuves importantes. Or, elle jouait un rôle à ses côtés et elle le rejoint. Elle le rejoint à Limoges. Nous sommes à ce moment-là en 43. Et elle est chargée, elle, d'aller porter un poste d'émetteur. Bon, il y va à sa place et il a disparu et on ne sait toujours pas comment il a disparu. Il a disparu, il a été arrêté, emporté, torturé, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Bon, donc, oui, enfin, dès le début, moi, je voudrais que les auditeurs... c'est pourquoi j'ai parlé de ces deux-là. Parce que c'est important de montrer que il n'y a pas eu une attente, on n'a pas forcé les gens à y aller. Il y en avait qui étaient levés avant le jour, si on peut dire, et qui ont effectivement tout de suite compris... la nécessité du sacrifice.
Oui, il semble que la première motivation des gens des brigades, c'était, bon, certes, lutter contre Franco, lutter, mais c'était l'antifascisme.
C'était l'antifascisme, c'était la solidarité. Mais tout à l'heure, je réserve pour la fin une histoire d'un jeune de la Croix-Rousse, type extraordinaire, héros de la résistance, qui est parti à l'âge de 15 ans, qui est revenu, il avait 17 ans. Et qui a joué un rôle important dans la résistance, mais j'en parlerai.
Oui, c'est aussi une des caractéristiques des brigadistes, pas tous bien sûr, mais il y en a un certain nombre qui étaient des gens très jeunes et qui dissimulaient leur âge pour pouvoir
absolument,
partir.
Absolument, mais absolument.
Puisqu'on leur demandait d'avoir 18 ans.
Absolument, oui, bien sûr. Bien sûr.
On fait une pause musicale, on va la faire autour
de... Ça permettra d'aborder un deuxième militant,
Paso de Lebro, là c'est une version traduite, on va dire, interprétée par Francesca Salvil, ce qui est bien sympathique. La traduction, les paroles françaises sont de Georges Coulonge, donc l'armée de Lebro.
C'est la grande armée de l'Ebre, rumba da rumba da rum bam bam. Una noche rio passo, ay Carmela, y paso l'Ebre la nuit, ay Carmela. Y la tropa s'invasora, rumba da rumba da rum bam bam. Et aux troupes étrangères, rumba da rumba da rum bam bam. Buena Paris Alessio, ay Carmela, elle inflige la défaite, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba da rumba da rum bam bam. La fureur de tous ses prêtres, rumba da rumba da rum bam bam. L'eau descarga su aviación, ay Carmela, tombe de tous leurs avions, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede en bombas, rumba da rumba da rum bam bam. Et rien ne peuvent les bombes, rumba da rumba da rum bam bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, contre nos soldats sans peur, ay Carmela. Contre sa cuesse muy rabiosa, rumba da rumba da rum bam bam. Aux attaques les plus dures, rumba da rumba da rum bam bam. Deberemos résister, ay Carmela, nous avons su résister, ay Carmela. Pero igual que combattimos, rumba da rumba da rum bam bam. Et comme on a su combattre, rumba da rum bam bam. Prometemos resistir, ay Carmela, nous serons combattants.
L'armée de l'air, interprétée par Francesca Salville. Vous écoutez Radio Canus en 2.2 MHz. L'émission Bistantelac, avec ce soir l'historien Maurice Moissonnier, autour du thème les brigadistes lyonnais, villeurbanais, puis peut-être vénitiens et d'autres communes autour de Lyon dans la guerre d'Espagne.
Oui, alors j'ai là un mémoire qui... est intéressant, c'est un jeune gars qui s'appelle Roger Weiss et qui a passé un mémoire à l'Université de Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département d'études hispaniques et ibéro-américaines, sur les volontaires lyonnais dans les brigades internationales 1936-38. C'est à la suite d'ailleurs du livre qui vient de sortir, il est sorti un livre sur les brigades, n'est-ce pas, et à partir de là, ça l'a dynamisé. Il s'est adressé à l'Institut d'histoire sociale de la CGT, qui me l'a renvoyé vers moi, bien sûr. Et il a fait un travail excellent. Et alors, je voudrais simplement indiquer, alors, du côté de la police, la façon dont c'est perçu, n'est-ce pas? Le 9 janvier 1937, par exemple, voici le chef de la sûreté de Lyon écrivant, et c'est une assez bonne description de l'organisation. Comme suite à votre communication en date du 12 décembre 1936, c'est à partir du moment où a commencé l'envoi de très nombreux volontaires à partir de Lyon, de la circulaire de M. le ministre de l'Intérieur en date du 9 décembre, relative au recrutement des volontaires à destination de l'Espagne, je viens de vous rendre compte qu'il a été créé en France des comités d'entraide au peuple espagnol, dont la tendance est antifasciste, et qu'à cet effet, les sections dépendantes de ces comités ont été installées dans toutes les villes de France, notamment en ce qui concerne notre région, à Vénissieux et Villeurbanne. Le but de ces comités, agissant à l'aide de tracts, affiches ou réunions, est d'obtenir des fonds, des vivres, des effets et l'enrôlement de volontaires. Leur propagande très active a été effectuée par voie de la presse. Pour la région lyonnaise, il est indiqué d'envoyer des fonds à un nommé Cazade, de la section du Secours Rouge International à Lyon, 4 rue Émile Zola. Cazade, bon, que j'ai bien connu, qui est mort depuis, mais qui a joué un rôle important dans ce domaine-là. Les vivres et les effets centralisés par des comités de quartier sont expédiés aux milices antifascistes de Barcelone par l'intermédiaire d'un nommé Torre, 145 ou 165 avenue Maréchal Foch à Perpignan. Donc on a absolument là déjà une mise en place des choses. Quant à l'enrôlement des volontaires, il s'effectue avec le concours de nombreux intermédiaires agissant dans les usines, dans les cafés et autres lieux et qui sont chargés de rabattre sur les comités centraux de Villeurbanne ou Vénissieux les recrues qui à ce moment reçoivent des instructions pour leur départ. En ce qui concerne les détachements, ils seraient dirigés sur Perpignan ou Marseille. Par le point central de concentration serait Perpignan. Il existerait, paraît-il, dans cette ville un ancien hôpital où seraient rassemblés ces volontaires, lesquels, avant leur départ, seraient astreints à une visite médicale. Ceux reconnus aptes à combattre seraient dirigés en grande partie sur Figueras, Espagne, en passant par camion automobile par le col du Pertus, Pyrénées-Orientales. Quant aux isolés, c'est-à-dire ceux qui se rendent individuellement en Espagne, notamment les mineurs, ils sont recrutés dans des formes et dirigés sur des officines qui leur remettent des papiers ou leur donnent des instructions pour pouvoir passer librement en Espagne, isolément ou accompagné. Il m'a été rapporté qu'une officine de ce genre fonctionnait à Marseille, rue de l'Italie, sans d'autres précisions. J'indique sous toute réserve qu'il m'a été rapporté que certains isolés ont quitté Lyon nantis de papiers réguliers délivrés par le consulat d'Espagne à Lyon. Le fait n'a pu être contrôlé. Sans doute possible pour des immigrés qui n'étaient pas forcément naturalisés et qui ont pu obtenir, c'est pas quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a lieu de remarquer maintenant que les familles de ces volontaires perçoivent des indemnités journalières qui sont payées par les comités d'entraide, dont un est installé à Lyon, 4 avenue Félix Faure. Ces comités seraient placés sous la direction du comité international d'aide au peuple espagnol. En résumé, ces faits signalés ci-dessus ne sont pas particuliers à Lyon et à sa région, mais existent sur l'ensemble du territoire. Il apparaît que seuls les postes frontaliers pourraient mettre obstacle à ces agissements. Donc, on a là un commissaire de police, n'est-ce pas, qui est tout à fait bien. Et alors, j'aurai l'occasion peut-être, parce que j'ai des descriptions de meetings qui sont intéressants aussi à percevoir, mais... ce qui est intéressant à noter maintenant, c'est de parler un peu aussi de ceux qui ont effectivement payé de leur vie. Hein. Alors, c'est surtout celui dont je vais parler tout de suite, qui n'a pas payé de sa vie tout de suite, mais qui a eu une histoire extraordinaire, c'est Marc Perrin. Bon, Marc Perrin, c'est quelqu'un que j'ai très très bien connu. J'ai fait sa biographie pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Métron. Je me suis beaucoup intéressé à lui parce que c'était un personnage tout à fait fascinant. Il était né le 1er janvier 1917, il est mort le 21 avril 1978. Son père était mécanicien du PLM et c'était un type très intelligent, hein, de brillant élève primaire. Il a le CEP, sa vie adulte primaire, que, à cette époque-là, les gens du monde du travail, bon, ils passaient pas par le lycée, hein. Avec il a eu mention du jury. Il adhère à 16 ans à la CGT confédérée. Il est membre des jeunesses socialistes à 15 ans. Il participe ensuite à la réplique du 6 février 1934. Et il est blâmé pour avoir fait grève le 12 février 1934, au moment où il est apprenti ajusteur à Nevers. Il vient de la région, il vient du Nivernais, en effet. À 17 ans, il est nommé dans les chemins de fer à Vénissieux. Donc, il débarque à Vénissieux, il s'installe à Vénissieux le 1er mai 1934, ce qui est assez intéressant. Vous voyez, il est marqué par le calendrier, celui-là. Bon, à l'automne, c'est un immigré espagnol, mais enfin naturalisé, la famille Ruiz, François Ruiz, qui le fait adhérer aux jeunesses communistes. Bon, il va rester, bien qu'aux jeunesses communistes, à la CGT confédérée, mais c'est le moment où il va y avoir l'évolution, puisque c'est à peu près en 1935 que se va réaliser l'unité des deux CGT. Il a adhéré au Parti communiste et il est affecté à la cellule où milite Albert Canova, qui sera un des grands combattants aussi de la guerre d'Espagne, hein, qui sera un des gradés, hein, d'une brigade que j'ai bien connue aussi. C'est des copains, tous ces gars dont je parle. Alors, il a à ce moment-là, une formation politique intense. Il lit Marx, il est dans les extraits du Capital en particulier, la guerre civile en France, les suites brumaires de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il entre au syndicat unique des cheminots qui réalise l'unité avant même le congrès fondateur de la réunification. Dès le 31 octobre 1936, eh bien, il va partir en Espagne, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une façon très très rapide. C'est le 21 octobre que le gouvernement espagnol donne son aval à la reconnaissance des bris internationales, et Marc part en Espagne, il a à ce moment-là 19 ans. Mais avant les brigades officielles, hein, il y a des formations combattantes, on l'a vu tout à l'heure, participent déjà aux côtés des Espagnols. Alors, il va participer dès le 13 novembre, après 7 jours de formation à Albacete. Alors, Albacete, un mot rapidement, c'est là où le Parti communiste a envoyé André Marty, et c'est là que c'est un centre de formation des brigades est mis en place. Il y passera des quantités de gens, particulièrement des Italiens, beaucoup des dirigeants italiens, bon, du Parti communiste. Alors, il participe au combat du Cerro de Las Angeles, de Las Angeles, hein, avec la 12e brigade, hein, c'est une brigade franco-belge. Bon, c'est pour des raisons.
Une italienne, la 12e? C'est pas une italienne?
Non, non, la 12e brigade internationale, c'est le bataillon franco-belge. Mmh. Il y a un bataillon franco-belge. Alors, au sud de Madrid, il a justement tué à côté de lui Joseph Amadeo, le premier de la famille Amadeo, famille de Vénissieux. Un autre sera tué encore en Espagne et le troisième sera tué au Vercors. Bon, ça dit aussi comment c'est assez symbolique, hein, du souci de ces militants ouvriers d'aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, il se battra à la Casa del Campo, à la cité universitaire. Donc, il fait à peu près tous les postes, n'est-ce pas? Tous les postes de la défense de Madrid. Puis ensuite, il est envoyé alors sur le Jarama, où d'ailleurs Delperier de Bayac, qui a fait un excellent ouvrage paru à la collection Marabout sur les brigades internationales, très documenté, et qui raconte la nuit du 10 ou 11 février du 12e franco-belge, toujours, alors cette fois, amené au pont de Pintocle sur le Jarama, et à ce moment-là notre ami Perrin est responsable d'une magnifique mitrailleuse Maxim, sur roue, d'origine soviétique, Et ils sont surpris par un raid brusquement, et lui, avec un sang-froid remarquable auquel Rémé Delperrier de Bayac rend hommage, il a le réflexe, pourtant il n'avait pas appris beaucoup de choses, parce qu'il a, lui non plus, il n'avait pas fait son service militaire à ce moment-là. Alors, avec sang-froid, il réussit à retirer la culasse, ce qui empêche les poursuivants de retourner la mitrailleuse contre eux. Ils ont beaucoup de pertes. Et il rejoint donc à partir de ce moment-là une autre compagnie commandée par un ouvrier imprimeur croix-roussien et qui s'appelle Émile Boursier, 31 ans et qui finira d'ailleurs dirigeant, n'est-ce pas, un croix-roussien, hein, qui finira d'ailleurs à la tête d'une importante formation militaire. Ah bon. Avec une vingtaine de survivants, il vient donc renforcer le bataillon des Boursiers. Ensuite, il combattra et participera à la bataille de Guadalajara. Voilà, je crois qu'il faut penser comme ça. Guadalajara, allez, les J, hein. Bon, puis ensuite à Brunette, sur le plateau de Castille, à l'ouest de Madrid, en juillet 1937. Il va rentrer en France pour satisfaire à ses obligations militaires, justement, en 1937. Et il est arrêté à la frontière. Il est d'ailleurs ensuite transféré à Strasbourg au 158e régiment d'infanterie. Et paradoxalement, il va être réformé parce qu'il est une otite carabinée. Alors, à journée, il est renvoyé. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il retourne en Espagne. C'est quand même assez extraordinaire. Il sera blessé sur le front de Madrid en désarmant un prisonnier. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est lui avec trois doigts qui lui manquent à la main. Hein, il a saisi la baïonnette, il l'a tirée comme ça, les trois doigts en fait. Il a malgré tout saisi le gars au pied, il l'a plaqué et il a fait son prisonnier comme ça. Enfin, il me racontait ça d'une façon extraordinaire. Bon, il est soigné à l'Exorial et il sera réformé à Albacete à partir de ce moment-là. Il échappe de justesse à l'encerclement parce que c'est le moment en 37 où la province de Valence va être isolée de la Catalogne. Donc il va rentrer en octobre 1938 en France et il va vivre de solidarité pendant un certain temps, n'est-ce pas? La loi interdisant l'indemnité de chômage, c'est le premier gouvernement chautan qui a eu ça d'ailleurs, hein, pour ceux qui aux rapatriés d'Espagne qui n'ont donc pas de justification de travail. Hein. Le gouvernement chautan, toujours théoriquement gouvernement de Front Populaire, qui à ce moment-là, n'est-ce pas, Alors ensuite, il se fera embaucher à Génicia comme graisseur de pelles mécaniques jusqu'au 1er mai 1939. Il est licencié à ce moment-là parce qu'il a fait grève le 1er mai 1939. Et il est ensuite nommé membre du comité de section de Saint-Fons. Il vit chez sa mère. Et il travaille à l'usine Weitz. Il est mobilisé en 1939 pendant 2 mois parce que on n'est pas au courant de son histoire de doigts. Il est mobilisé parce que il avait une otite. Au moment de la déclaration de guerre, il est mobilisé là-bas. Bon, mais bien entendu, il ne va pas rester longtemps. Il est mobilisé 2 mois. On l'isole d'ailleurs avant son constat de réforme définitive. Et après la défaite, il est mis il s'est fait embaucher sur les fouilles archéologiques de Fourvière. Et alors c'est à ce moment-là, et ça va me permettre de faire la liaison avec la suite, où il a le deuxième temps, parce que Perrin en 40. Il est presque tout de suite en contact avec le Parti communiste clandestin. Alors bon, tracte, collègue de solidarité, aide aux prisonniers. Et il sera arrêté le 16 octobre 1940, parce qu'il était suspect. Et il est un des premiers à être arrêté. Et un journal de droite, je ne me souviens plus malheureusement, fait un article que reproduit d'ailleurs Delperrier de Bayac dans un autre bouquin qu'il a intitulé Le petit royaume du maréchal, et où on affole le lecteur en montrant ce type qui est un type épouvantable, et on a trouvé chez lui deux poignards et des revolvers. Bon, effectivement, il a ramassé des armes parce qu'il comprend que la lutte va continuer. Et alors, il va être envoyé, il va être arrêté, on a trouvé aussi des humains clandestines, bon, et il fait partie d'ailleurs d'un groupe de 27 arrestations, donc, qui a lieu le 16 octobre. Pendant 3 jours et 2 nuits, il subit un interrogatoire renforcé. Et il est condamné au début mai 41 à 2 ans de prison. Il fait appel, parce que les camarades disent qu'il faut faire appel. Bon, il fait appel. Et en juin 41, il passe devant le tribunal. Et alors, il fait une déclaration. Là aussi, j'étais communiste quand vous m'avez arrêté. Je resterai communiste, quel que soit votre verdict. Alors la peine est prolongée. Il avait eu 2 ans de prison, elle est prolongée à 4 ans. Et il va être transféré, il va faire plusieurs prisons. Et il est transféré en 43, et à Rion, il fait une tentative d'évasion, et échec. En novembre 43, il est alors expédié à la centrale d'Esse. Alors la centrale d'Esse, c'est la centrale qui a connu cette insurrection, hein, avec par exemple Louis Oulagne, hein, quand vous allez à Moulins. Vous avez une route, une rue qui s'appelle Oulagne. Oulagne, c'est celui qui a tenté de forcer à la grenade un passage au moment de l'insurrection. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette insurrection. Je sais toute l'histoire, elle est extrêmement compliquée. Et un jour, il faudra qu'on en parle. Bon, mais en tout cas, il sera pris parmi les otages qui sanctionnent l'insurrection. Il y en a parmi eux 8 de fusillés, 12 fusillés. Il y a eu 60 otages pris parmi les insurgés, 12 qui sont fusillés. Lui, il échappe. Et il est transféré à Blois. Et en juillet 44, à Compiègne, eh bien, il réalisait déjà des journaux clandestins. Il est déporté ensuite à Dachau. Et il figure dans le livre de Bernadac, Le train de la mort, où justement ces militants s'organise pour qu'il n'y en a pas un qui meure dans ce train de la mort qui a mis un temps invraisemblable. Et effectivement, il n'y a pas eu un seul qui est mort. Et il est revenu ensuite après. Il a joué un rôle important, et je l'ai connu en 1947, au moment où, jeune étudiant, j'ai adhéré au Parti communiste, et il était secrétaire de la section de Guillotière, où on était... pour moi, ça a été un type qui m'a véritablement fasciné. Bon, voilà quelque chose qui montre la continuité. Mais... je voudrais quand même maintenant terminer sur un plus jeune, il nous reste 10 minutes justement. Je tire du travail que j'ai contribué à guider là, de ce jeune Weiss, ce qu'il a pris comme exemple de brigadisme. Berton Marcel. Alors j'insiste aussi encore parce que c'est un gars de la Croix-Rousse. Berton Marcel, il est à 16 ans, soldat dans les brigades internationales. Il est né le 6 octobre 1920, la ville de naissance Lyon, ouvrier du bâtiment d'origine italienne, mais en même temps, il fera un certain nombre d'études qui l'élèvera au-dessus du niveau de pré-primaire, puisqu'il deviendra à un certain moment aide-comptable. Bon, il adhère au Parti communiste en 1934. Et à partir de là, il a pas effectué son service militaire. Il arrive dans les brigades le 8 février 1937. Il est commandant de compagnie. Il sera 3 fois blessé, et il rentrera en décembre 1938. Bon, voilà, c'est rapidement, hein, parce que c'est quelqu'un qui a des choses très importantes, qui a réalisé des choses absolument importantes. Et alors, quand il rentre, est-ce que je vais retrouver la lettre que j'ai recopiée, malheureusement? Oui, je pense. Oui, il fait paraître dans La Voix du Peuple un article, Marcel Berton, le 11 août 1939, il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert. Un véritable crime a été commis contre les jeunes héros de l'Espagne républicaine. C'est titré comme ça. Au congrès, on s'en prend au congrès de l'International Socialiste, où des jeunes socialistes viennent d'être exclus de la jeunesse socialiste unifiée. Hein. Et alors, il dénonce l'attitude de Chaussois, de Hollenauer et de Hansen, qui dirigeaient l'Internationale des jeunes socialistes à cette époque-là, en disant « Jamais les jeunes n'oublieront Madrid, Jarama, Brunete, Pozzo Blanco, Lèbre, le sang de la jeunesse a coulé pour la liberté du monde. » Et il termine par une phrase qui est absolument extraordinaire, parce que elle est riche d'aspects prémonitoires. Si l'on refuse de s'unir aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre 1939, si l'on refuse de s'unir au mois le 11 août, si l'on refuse de s'unir aujourd'hui, demain peut-être, profitant de notre désunion, le fascisme attaquera. Craignons alors d'être unis dans les camps de concentration ou dans la mort. Eh bien, lui, il a été effectivement uni dans la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, n'est-ce pas, il a joué un rôle important dans la résistance. Il a été fusillé par les nazis le 17 avril 1942. Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, il avait été responsable des premiers groupes de sabotage. Et avec son groupe, ils avaient incendié un camion allemand. Un camion de la Wehrmacht, avec tout un tas de choses intéressantes. Et il a réussi un moment à s'échapper, mais il a été recoincé par des gendarmes français qui l'ont livré aux Allemands, et il a été fusillé. Et alors, il a écrit dans cette lettre à sa fille. Et dans l'entretemps, effectivement, il s'était marié avec une jeune camarade du mouvement des jeunesses féminines. Et il avait eu un enfant, et il écrit à sa fille, je me souviens plus, il me semble que j'avais indiqué cette indication, mais bon,
donner le sens.
Soit sans cesse, oui, fidèle à la fraternité, et surtout ne baisse pas la tête parce que ton père a été fusillé. C'est sa dernière lettre, cette autorisation. Sa lettre entière figure dans les lettres de fusillés que le Parti communiste a publié à un certain moment. Je ne l'ai pas apporté là, mais c'est quelque chose de tout à fait bouleversant.
Il nous reste quelques minutes pour conclure.
Et puis, pour conclure, c'est effectivement... J'aurais beaucoup de choses aussi à dire, j'aurais d'autres à rappeler. Mais je veux dire simplement que pour les gens que ça a intéressé, prochainement, disons dans un an, il y aura sans doute à Villeurbanne une exposition et toute une série de choses qui rappelleront cette période-là. L'Institut d'Histoire Sociale de la CGT a effectivement pris contact avec la mairie. J'avais été voir aussi l'archiviste, et il se trouve que Lyon a beaucoup apporté au point de vue d'envoi de ravitaillement, d'envoi de couverture, d'envoi d'argent pour les brigades internationales, et ça partait en général de Villeurbanne. Et alors nous allons faire une chose intéressante, parce que quand ces convois qui avaient apporté ces camions qui avaient apporté de la nourriture, qui avaient apporté des choses pour la population civile, mais aussi de l'argent, mais aussi à certains moments, dans certaines conditions, des armements, et des armements fabriqués dans le Rhône,
des grenades qui faisaient ça en
des grenades. Oui, il y a eu des condamnations, hein. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans d'autres choses. Eh bien, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il y avait une réplique de la part des Espagnols. Ils envoyaient les affiches de la période, et les archives de Villeurbanne ont une collection extraordinaire de ces affiches qui ont un caractère de cet art italien qui a été influencé par Picasso, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, il y aura exposition de ces affiches, il y aura conférence et il y aura film sur cette chose-là, et je pense que on pourra revenir sur cette période qui ne mérite pas d'être oubliée.
On ne manquera pas d'en avertir nos auditeurs. Maurice Moussonnier, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'ici quelques temps. On n'a pas encore choisi le sujet. On se quitte en écoutant une troisième version de El Paso del Ebro. C'est Lenny Escudero qui l'a enregistré récemment. Bonsoir.
Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la rumba. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y la sopa se invasó, la rumba la rumba la rumba la. Y la sopa se invasó, la rumba la rumba la rumba. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, ay. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, ay. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, ay. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, ay. Y las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela, ay. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, ay. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Ainsi se termine cette émission consacrée aux brigades internationales à travers la participation de militants de la région lyonnaise. Cette émission était la rediffusion d'une émission de 2002 réalisée avec l'historien lyonnais Maurice Moissonnier. Thank you.
Thank you.